Chapitre 6 L'heureuse beauté et l'esclave aveugle. Une esclave entra dans la chambre d'Ionée et annonça la messagère de Glaucus. Ionée hésita un moment. « Elle est aveugle, cette messagère, dit l'esclave, et ne veut confier son message qu'à vous seul. » Bas est le cœur qui ne respecte pas le malheur des autres. En entendant que la messagère était aveugle, Ionée sentit qu'il lui était impossible de la renvoyer avec une dure réponse. Glaucus avait choisi une messagère sacrée qu'on ne pouvait refuser de recevoir. « Que peut-il me vouloir? Quel message peut-il m'envoyer ?» Et le cœur d'Ionée palpitait vivement. Le rideau de la porte fut tiré, un pas doux et sans écho glissa sur le marbre, et Nydia, accompagnée d'une des suivantes d'Ionée, entra avec ses précieuses fleurs. Elle s'arrêta un moment comme si elle attendait un son qui la dirigea vers Ionée. « La noble Ionée, dit-elle d'une voix douce et timide, voudrait-elle me parler afin que je puisse savoir de quel côté diriger mes pas enveloppés d'obscurité et déposer à ses pieds mon offrande ?»« Belle enfant, dit Ionée touchée avec douceur, ne te donne pas la peine de traverser ce pavé glissant. Mon esclave m'apportera ce que tu as me présenté. » Et elle fit signe à sa suivante de prendre le vase. « Je ne dois remettre ces fleurs qu'à toi-même, » répondit Nydia. Et, guidée par son oreille, elle arriva lentement près d'Ionée et, s'agenouillant devant elle, lui remit le vase. Ionée le prit de sa main et le plaça sur la table à côté d'elle. Elle releva gracieusement Nydia et voulut la faire asseoir à ses côtés, mais la jeune fille refusa modestement de le faire. « Je n'ai encore accompli que la moitié de ma mission, » dit-elle. Et elle tira la lettre de Glaucus de sa ceinture. « Ceci vous expliquera peut-être, » ajouta-t-elle, « pourquoi celui qui m'envoie a choisi une messagère si peu digne d'Ionée. » La Napolitaine prit la lettre d'une main si tremblante que Nydia en sentit le frémissement et qu'elle en soupira. Les bras croisés et la tête inclinée, elle se tenait debout devant l'orgueilleuse et majestueuse Ionée, non moins fière peut-être dans son attitude de soumission. Ionée, d'un geste, éloigna sa suivante. Elle jeta un nouveau regard sur la jeune et belle esclave, un regard de surprise et de compassion, puis, s'écartant un peu d'elle, elle ouvrit et lut cette lettre. Glaucus écrit à Ionée ce qu'il ose lui dire. Ionée est-elle malade? Ses esclaves assurent que non, et cette assurance me console. Glaucus a-t-il offensé Ionée? Ah, cette question, je ne puis la leur adresser. Voilà 5 jours que je suis banni de ta présence. Le soleil a-t-il paru? Je n'en sais rien. Les cieux ont-ils souri? Ils n'ont pas eu du moins de sourire pour moi. Mon soleil et mes cieux, c'est Ionée. Est-ce que je l'ai offensée? Suis-je trop audacieux? Ces tablettes oseront-elles exprimer ce que ma langue a craint de dire? Hélas, c'est dans ton absence que je comprends surtout les enchantements pour lesquels tu m'as soumis. L'absence qui me prive de joie me donne du courage. Tu ne veux pas me voir. Tu as banni également les flatteurs qui ont l'habitude de t'environner. Peux-tu me confondre avec eux? Mais ce n'est pas possible. Tu sais trop bien que je n'ai rien de commun avec eux, que nous ne sommes pas pétris de la même argile. Quand je serai encore formé d'un plus humble limon, le parfum de la rose m'a pénétré et l'esprit de ta nature a passé en moi pour m'embaumer, me purifier, m'inspirer. Ai-je été calomnié auprès de toi, Ionée? Tu ne croirais pas la calomnie. L'oracle de Delphes lui-même me dirait que tu es une créature indigne de mon hommage. Je ne le croirais pas, je suis moins incrédule que toi. Je pense à la dernière fois où nous nous sommes eus, à ce chant que je t'ai chanté, à ce regard que tu m'as accordé en retour. Dissimule-le autant que tu le voudras, Ioné, il y a quelque intimité entre nous, et nos yeux l'ont avoué, si nos lèvres ont gardé le silence. Laisse-moi te voir, écoute-moi, et après cela, chasse-moi pour toujours si tu le veux. Je n'avais pas dessein de t'avouer si tôt mon amour, mais ces mots sortent malgré moi de mon cœur. Je ne puis les arrêter. Accepte donc mon cœur et mes vœux. Nous nous sommes rencontrés devant le temple de Pallas. Ne nous rencontrerons-nous pas devant un plus doux et plus ancien autel? Ô belle et adorée Ionée, si l'ardeur de ma jeunesse et mon sang athénien m'ont entraîné, m'ont égaré, ce n'a été que pour m'apprendre, dans mes courses vagabondes, à apprécier le repos, le port que j'ai atteint. Je suspends mes vêtements mouillés à l'autel du dieu des mers. J'ai échappé au naufrage. Je t'ai trouvé, toi, Ionée. Daigne me voir. Tu es aimable pour les étrangers. Auras-tu moins de compassion pour tes compatriotes? J'attends ta réponse. Accepte les fleurs que je t'envoie. Leur douce haleine a un langage plus éloquent que les mots. Elles empruntent au ciel les odeurs qu'elles nous rendent. Elles sont les images de l'amour qui reçoit et qui paye 10 fois plus qu'il ne reçoit. Elles sont l'emblème du cœur que tes rayons ont traversé et qui te doit le germe de ses trésors. Daigne leur sourire. Je t'envoie ces fleurs par une personne que tu recevras pour l'amour d'elle-même, si ce n'est pour l'amour de moi. Comme nous, elle est étrangère. Les cendres de ses pères reposent sous des cieux plus brillants, mais moins heureuse que nous, elle est aveugle et esclave. Pauvre Nydia, je cherche autant que possible à réparer pour elle les torts de la nature et du destin, en te demandant la permission de la placer près de toi. Elle est habile musicienne, elle chante bien, et c'est une vraie Chloris pour les fleurs. Elle pense, Ionée, que vous l'aimerez, sinon, renvoyez-la moi. Un mot encore. Pardonnez mon audace, Ionée. D'où vient votre haute estime pour votre sombre égyptien? Son air n'est pas d'un honnête homme. Nous autres Grecs, dès le berceau, nous connaissons les hommes. Nous sommes profonds aussi, sans affréter un maintien austère. Le sourire est à nos lèvres, mais nos yeux sont graves. Ils observent, ils notent, ils étudient. Arbacès n'est pas un homme à que l'on puisse se fier. Peut-être est-ce lui qui m'a calomnié dans ton esprit. Je le pense parce que je l'ai laissé avec toi. Tu as vu comme ma présence l'a surpris. Depuis ce moment, tu ne l'as plus admis dans ta maison. Ne crois rien de ce qu'il est capable de dire contre moi. Si tu le crois, dis-le-moi au moins. Ionée doit cela à Glaucus. Adieu. Cette lettre touche ta main, ses caractères rencontrent tes yeux. Faut-il qu'ils soient plus heureux que leur auteur? Encore une fois, adieu. Il sembla à Ionée, pendant qu'elle lut cette lettre, qu'un brouillard se dissipait devant ses yeux. Quelle avait été l'offense supposée de Glaucus? Qu'il ne l'aimait pas réellement? Mais ne confessait-il pas son amour pleinement dans les termes les moins douteux? Dès ce moment, son pouvoir se trouva complètement rétabli. À chaque tendre mot de cette lettre, pleine d'une passion si confiante et si poétique, son cœur lui faisait un reproche. Avait-elle pu douter de sa foi? Mais avait-elle pu croire aux paroles d'Arbacès? N'avait-elle pas refusé à Glaucus le droit qu'a tout accusé de se défendre, de plaider sa cause? Des larmes roulèrent le long de ses joues. Elle baisa la lettre, elle la mit dans son sein, et se tournant vers Nydia, qui était restée à la même place et dans la même attitude, « Asseyez-vous, mon enfant, dit-elle, pendant que je vais écrire une réponse à cette lettre. » « Vous allez donc répondre, dit froidement Nydia. Dans ce cas, l'esclave qui m'a accompagné rapportera votre réponse. » Pour vous, ajouta Ioné, restez avec moi. Vous pouvez être assuré que votre service sera doux. Nydia inclina la tête. Quel est votre nom, bel enfant? On m'appelle Nydia. Votre pays? La terre de l'Olympe, la Thessalie. Vous serez mon ami, dit Ioné d'un ton caressant. Vous qui êtes déjà à moitié ma compatriote. Mais je vous prie de ne pas rester sur ces marbres froids et polis. Venez ici. Maintenant que vous êtes assise, je puis vous quitter un instant. Lettre d'Ionée à Glaucus. Venez me voir, Glaucus. Venez me voir demain matin. J'ai pu être injuste envers vous, mais je vous apprendrai du moins les torts qu'on vous a attribués. Ne redoutez pas l'Égyptien, ne redoutez personne. Vous dites que vous avez exprimé trop de choses dans votre lettre. Hélas, dans ce peu de mots écrits à la hâte, j'en ai fait autant. Adieu. Lorsque Ioné revint avec cette lettre qu'elle n'osa pas relire après l'avoir écrite, imprudence ordinaire, timidité naturelle de l'amour, Nydia se leva vivement de son siège. « Vous avez écrit à Glaucus ?»« Oui, je l'ai fait. »« Aura-t-il lieu de remercier le messager qui lui portera votre lettre ?» Ioné oublia que sa compagne était aveugle. Elle rougit du front jusqu'au cou et garda le silence. « Je veux dire, ajouta Nydia d'une voix plus calme, que de votre main les mots les plus légèrement empreints de froideur l'attristeront et que la marque la plus faible de tendresse le remplira de joie. Si c'est de la froideur que l'esclave emporte la réponse, mais si vous lui marquez de l'intérêt, laissez-moi m'en charger, je reviendrai ce soir. Mais pourquoi donc, Nydia, dit Ioné d'une façon évasive, voudras-tu porter cette lettre? Alors, je le vois, votre tendresse à parler, dit Nydia. Comment pourrait-il être autrement? Qui donc se montrerait insensible pour Glaucus? Mon enfant, dit Ioné avec un peu plus de réserve, tu parles avec chaleur. Glaucus est donc bien aimable pour toi? Noble Ioné, Glaucus a été pour moi ce que ni la fortune ni les dieux n'ont été, un ami. La tristesse mêlée de dignité avec laquelle Nydia prononça ces simples mots toucha profondément la belle Ioné. Elle se pencha vers elle et l'embrassa. Tu es reconnaissante, dit-elle, et à bon droit. Et pourquoi rougirais-tu de dire que Glaucus est digne de ta gratitude? Va, ma Nydia, porte-lui toi-même cette lettre, mais reviens chez moi. Si je ne suis pas dans ma demeure à ton retour, comme cela peut arriver ce soir, ta chambre sera préparée près de la mienne. Nydia, je n'ai pas de sœur, veux-tu être la mienne? La Thessalienne baisa la main d'Ionée et lui dit avec un peu d'embarras. « Une faveur, belle Ionée, puis-je implorer de vous une faveur ?»« Tu ne me demanderas rien que je ne veuille t'accorder, » répliqua la Napolitaine. « On dit, » reprit Nydia, « que vous êtes belle au-dessus de toute beauté de la terre. Hélas, je ne puis voir ce qui réjouit le monde. Voulez-vous me permettre de passer ma main sur votre visage? C'est ma seule manière de connaître la beauté. » et je me trompe rarement. » Elle n'attendit pas la réponse d'Ionée, et tout en parlant, elle passa lentement et doucement sa main sur les traits penchés et à moitié détournés de la grecque, traits qu'une seule image dans le monde peut dépeindre et rappeler. Cette image est la statue mutilée, mais toujours merveilleuse, de sa cité natale, de sa ville de Néapolis. Cette figure en marbre de Paros, près de laquelle toute la beauté de la Vénus de Florence est pauvre et terrestre. Ce visage plein d'harmonie, de jeunesse, de génie, d'âme, que les critiques modernes ont prétendu être la représentation de Psyché. Sa main toucha légèrement les cheveux nattés, le front poli, la joue satinée et vermeille, les bras à fossettes, le cou de cygne d'Ionée. Je sais maintenant que vous êtes belle, dit-elle, et je puis emporter votre portrait dans mes ténèbres et le revoir toujours. Lorsque Nydia la quitta, Ionée se laissa aller à une profonde et délicieuse rêverie. Glaucus l'aimait. Il l'avouait, oui, il l'avouait. Elle relut son tendre aveu. Elle s'arrêta sur chaque mot. Elle baisa chaque ligne. Elle ne se demandait pas pourquoi il avait été calomnié. Elle était simplement assurée qu'il l'avait été. Elle s'étonnait d'avoir ajouté foi à une seule parole dite contre lui. Elle s'étonnait que l'Égyptien eût le pouvoir de la tourner contre Glaucus. Elle frissonna en réfléchissant à la prudence que celui-ci recommandait à l'égard d'Arbacès, et la secrète inquiétude que lui causait cet être mystérieux devint de l'effroi. Elle fut réveillée de ses pensées par ses femmes, qui vinrent lui annoncer que l'heure marquée pour sa visite à Arbacès était arrivée. Elle tressaillit. Elle avait oublié sa promesse. Sa première impression fut de ne pas aller chez lui. Sa seconde, de rire des craintes que lui causait le plus ancien de ses amis. Elle se hâta d'ajouter de nouveaux ornements à sa toilette et, se demandant si elle devait presser de vives questions l'Égyptien au sujet de son accusation contre Glaucus, ou si elle devait attendre qu'elle en eût entretenu ce dernier, sans citer son autorité, elle prit le chemin de la sombre demeure d'Arbacès. Chapitre 7. Ionée est prise dans le filet, la souris essaie de ronger les mailles. « Oh, ma chère Nydia !» s'écria Glaucus en lisant la lettre d'Ionée. « Oh, la plus blanche messagère qui ait jamais passé entre la terre et le ciel ! Mais comment te remercier ?»« J'ai ma récompense, » dit la pauvre thessalienne. « Demain, demain, mais comment employer les heures jusqu'à ce moment ?» L'amoureux grec ne voulait pas laisser Nydia s'éloigner, quoiqu'elle essayât à plusieurs reprises de sortir de la chambre. Il lui faisait répéter, syllabe par syllabe, la brève conversation qui avait eu lieu entre elle et Ionée. Mille fois, oubliant son infirmité, il l'accabla de questions sur le regard, sur l'air qu'avait sa bien-aimée. Et puis tout à coup, s'excusant de son erreur, il lui faisait recommencer son récit entier. Ces instants, si pénibles pour Nydia, s'écoulaient rapidement pour lui et remplissaient son cœur d'un sentiment délicieux. Le crépuscule avait déjà été envahi par l'obscurité avant qu'il eût renvoyé Nydia chez Ionée. Elle partit enfin avec de nouvelles fleurs et une nouvelle missive. À ce moment, Claudius et quelques-uns de ses gais compagnons vinrent le surprendre. Ils le plaisantèrent sur son amour de la solitude et sur son absence pendant toute la journée des lieux qu'il avait l'habitude de fréquenter. Ils l'engagèrent à les accompagner dans les différents quartiers de cette mouvante cité qui, nuit et jour, offrait tant d'occasions de plaisir. Alors, comme maintenant, sur cette terre aimée, car aucune autre, en perdant plus de sa grandeur, n'a gardé plus de ses mœurs, il était d'usage que les Italiens s'assemblassent le soir. Et sous les portiques des temples ou à l'abri des bosquets qui séparaient les rues, écoutant la musique ou les récits de quelques conteurs, ils saluaient le lever de la lune avec des libations et des mélodies. Glaucus était trop heureux pour se montrer insociable. Il avait besoin de répandre au dehors l'exubérance de la joie qui l'étouffait. Il accepta volontiers l'offre de ses compagnons, et ils se mirent à parcourir ensemble ces rues brillantes que nous avons déjà dépeintes. Dans le même temps, Nidia rentrait chez Ioné, qui était sortie déjà depuis quelques heures. Elle demanda, sans attacher d'importance à sa demande, où Ioné était allé. La réponse qu'on lui fit la saisit de terreur et d'effroi. À la maison d'Arbacès, de l'Égyptien. Impossible! Mais c'est pourtant ainsi, mon enfant, reprit la suivante qu'elle avait interrogée. Il y a longtemps qu'elle connaît l'Égyptien. Longtemps, grand Dieu, et Glaucus l'aime, murmura Nidia en elle-même. A-t-elle souvent rendu visite à cet homme? Demanda-t-elle. Non, jamais encore, reprit l'esclave. Oh, si ce qu'on dit à Pompéi de la vie scandaleuse de l'Égyptien est vrai, il aurait peut-être mieux valu qu'elle se fût disposée d'aller chez lui. Mais notre pauvre maîtresse n'entend rien des bruits qui viennent jusqu'à nous. Les commérages du vestibulum n'entrent pas dans le péristyle. Mais jamais, jusqu'à ce jour, répéta Nidia, en êtes-vous sûre? Mais très sûre, ma petite. Mais qu'est-ce que cela te fait, à toi comme à moi? Nidia hésita un moment, puis posant à terre les fleurs dont elle était chargée, elle appela l'esclave qui l'avait accompagnée et quitta la maison sans ajouter une parole. À moitié chemin de la demeure de Glaucus, elle rompit le silence et se parla ainsi. Elle ne peut connaître, elle ne connaît pas les dangers qu'elle court. Folle que je suis, est-ce à moi de la sauver? Oui, oui, car j'aime Glaucus plus que moi-même. Lorsqu'elle arriva à la maison de l'Athénien, elle apprit qu'il venait de sortir avec ses amis et qu'on ne savait où il était. Il ne reviendrait pas probablement avant une heure avancée de la nuit. La Thessalienne soupira. Elle se laissa tomber sur un siège et se couvrit la figure de ses mains comme pour rassembler ses pensées. « Il n'y a pas de temps à perdre, » pensa-t-elle en se levant. Elle s'adressa à l'esclave qui lui avait servi de guide. « Sais-tu, lui dit-elle, si Ioné a quelques parents, qu'intime ami à Pompéi ?»« Par Jupiter, répondit l'esclave, voilà une sotte question. Tout le monde à Pompéi sait qu'Ioné a un frère, qui, jeune et riche, a été assez fou, soit dit entre nous, pour se faire prêtre d'Isis. »« Un prêtre d'Isis, ô Dieu, son nom, Apaïsides. » « Je sais tout, » murmura Nidia. « Frères et sœurs sont à la fois victimes. »« Apaïsides, oui, c'est le nom que j'ai entendu chez... »« Ah, il comprend alors le péril où se trouve sa sœur. Je vais aller le trouver. » Elle se leva en prenant le bâton sur lequel elle s'appuyait et se rendit aussitôt au temple voisin d'Isis. Jusqu'à ce qu'il eût été sous la garde du généreux grec, ce bâton avait suffi au pas de la pauvre fille aveugle pour traverser Pompéi d'un bout à l'autre. Chaque rue, chaque détour lui était familier dans les quartiers les plus fréquentés. Et comme les habitants éprouvaient une vénération tendre et à demi superstitieuse pour les personnes frappées de ces cités, les passants se dérangeaient toujours pour la laisser suivre sa route. Pauvre fille! Elle était loin de se douter que son malheur deviendrait sa protection, et la garantirai plus sûrement que les yeux les plus clairvoyants. Mais depuis qu'elle était entrée chez Glaucus, il avait ordonné à un esclave de l'accompagner partout. Celui à qui cette mission était échue, fort gros et fort gras, après être allé deux fois à la maison d'Ionée, ne paraissait pas très satisfait d'être conduit à une troisième excursion, sans savoir seulement où ils allaient. Mais il s'empressa de la suivre, tout en déplorant son sort et en jurant solennellement par Castor et Pollux qu'il croyait que la fille aveugle avait les ailes de Mercure, non moins que le bandeau de Cupidon. Nydia ne réclama qu'à peine son assistance pour arriver malgré la foule au temple d'Isis. L'espace qui s'étendait devant le temple était en ce moment désert, et elle parvint sans obstacle jusqu'à la grille sacrée. « Il n'y a personne ici, » dit le gros esclave. « Que veux-tu? Qui demandes-tu? Ne sais-tu pas que les prêtres ne demeurent pas dans leur temple ?»« Appelle, » dit-elle avec impatience. « Nuit et jour, il doit y avoir au moins un flamine à veiller devant l'autel d'Isis. » L'esclave appela. Aucun prêtre ne parut. « Ne vois-tu personne ?»«
Personne ?»«
Mais tu te trompes, j'entends un soupir, regarde de nouveau. » L'esclave, étonné, grommelant, jeta autour de lui ses yeux apesantis, et devant un autre des autels dont les débris des offrandes remplissaient encore l'étroit espace, aperçut quelqu'un dans l'attitude de la méditation.
« Je vois une figure, » dit-il. « Et si j'en juge par ses vêtements blancs, ça doit être un prêtre. »«
Ô Flamine d'Isis !» cria Nydia. « Serviteur de la plus ancienne déesse, écoute-moi. »«
Qui m'appelle ?» dit une voix faible et mélancolique.
« Une personne qui a des choses importantes à révéler à un membre de votre corps. Je viens faire une déclaration et non demander des oracles. »
« À qui voulez-vous parler? L'heure n'est pas bien choisie pour une conférence. Allez parler, partez, ne me troublez pas. La nuit est consacrée aux dieux, le jour aux hommes. »
« Il me semble que je connais ta voix. Mais tu es celui que je cherche. Cependant, je ne t'ai entendu parler qu'une fois. N'es-tu pas le prêtre à Paécides ?»«
Je le suis. » répliqua le prêtre, quittant l'autel et s'approchant de la grille.
« Oh, c'est toi, les yeux en soi loués !»
Étendant la main vers l'esclave, elle lui fit signe de s'éloigner. Et lui, qui pensait naturellement que quelque superstition dans l'intérêt de la sûreté d'Ionée avait seul pu la conduire au temple, obéit et s'assit par terre et à quelque distance.
« Chut, » dit-elle, « parle promptement et bas. Es-tu en effet à Paécides ?
Puisque tu me connais, tu n'as qu'à te rappeler mes traits. »«
Je suis aveugle, » répondit Nydia. « Mes yeux sont dans mes oreilles. Ce sont elles qui te reconnaissent. Jure-moi que tu es celui que je cherche. » »«
Je le jure par les dieux, par ma main droite et par la lune. »
« Chut, parle bas, penche-toi. Donne-moi ta main. Connais-tu Arbacès ? As-tu déposé des fleurs au pied de la mort ? Oh, ta main est froide. Écoute encore. As-tu prononcé le terrible vœu ?
Mais qui es-tu ? D'où viens-tu, pâle jeune fille ? Dit Paécides avec anxiété.
Je ne te connais pas. Ce n'est pas sur ton sein que ma tête s'est reposée. Je ne t'ai jamais vu avant ce moment. Mais tu as entendu ma voix, n'importe. Ces souvenirs nous feraient rougir l'un et l'autre. Écoute, tu as une sœur. Parle, parle, que lui est-il arrivé? Tu connais les banquets de la mort, étranger. Il te plaît peut-être de les partager?
Te plairait-il d'y voir ta sœur assise à côté de toi? Te plairait-il qu'Arbacès fût son hôte?
Oh Dieu, il ne l'oserait pas. Jeune fille, si tu te joues de moi, tremble. Je te déchirerai membre par membre.
Mais je te dis la vérité. Et pendant que je parle, Ionée est chez Arbacès, son hôte pour la première fois. Oh, tu sais s'il y a du péril dans cette première fois. Oh, adieu, j'ai rempli mon devoir.
Arrête, arrête, s'écria le prêtre en pressant son front de sa main amaigrie. Si ce que tu dis est vrai, comment faire pour la sauver? On me refusera l'entrée de cette maison. C'est un labyrinthe dont je ne connais pas les détours. Oh, Némésis, je suis justement puni.
Je vais renvoyer mon esclave. Sois mon guide et mon compagnon. Je te conduirai à la porte secrète de cette maison. Je soufflerai à tes oreilles le mot qui te fera admettre. Prends une arme, elle pourra te servir.
Attends un instant, dit Apaïsides. Il se retira dans une des cellules qui s'ouvraient sur les côtés du temple et reparut quelque temps après, enveloppé dans un large manteau qui était porté alors par les personnes de toute classe et qui recouvrait ses vêtements sacrés. « Maintenant, dit-il en grinçant des dents, si Arbacès osait, mais il n'osera pas. Pourquoi le soupçonner? Serait-il assez misérable? Je ne peux pas le penser. Cependant, c'est un sophiste, c'est un sombre imposteur. Oh Dieu, protégé! Mais que dis-je, est-il des dieux? Oui, il y a du moins une déesse dont je puis faire parler la voix. Et cette déesse, c'est la vengeance. » En murmurant ces paroles incohérentes, Apaïsides, suivi de sa compagne silencieuse et aveugle, se rendit à la hâte par les rues les moins fréquentées à la maison de l'Égyptien. Le gros esclave, renvoyé brusquement par Nydia, haussa les épaules, murmura un juron, et, sans en être fâché d'ailleurs, prit au petit trot le chemin de son cubiculum.